Bonjour à tous. Nous allons partager la parole du Seigneur, mais comme c'est un passage un petit peu long, je me suis dit je vais faire une lecture à trois voix. Donc je vais demander aux trois personnes que j'ai sollicitées de s'approcher et de nous lire le texte qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, et donc du chapitre 1, verset 4, jusqu'au chapitre 2, les premiers versets, les sept premiers versets. Et je crois que c'est Agnès qui... Alors, écoutez bien, je vous demande vraiment de vous concentrer à l'écoute de cette lecture qui précède le partage de l'Écriture.
Apocalypse, chapitre 1, verset 4. Jean aux sept églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir, au siècle des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, qui suis votre frère et qui prends part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre » et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée.
Je me retournais pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four, et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Sois sans crainte. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire ensuite. Quant au mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et aux sept chandeliers d'or, les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises.
Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu.
Amen. Merci pour cette lecture qui a été faite par toutes les trois. Donc, nous allons juste partager quelques pensées autour de cette entrée en matière de l'Apocalypse. C'est un texte qui a du souffle, où le Saint-Esprit nous élève, comme il a élevé Jean, dans des sphères qui nous échappent, mais qui sont entrouvertes. Le livre de l'Apocalypse, en anglais, c'est Revelations, c'est le livre des révélations, du dévoilement. Et en fait, on est là dans un texte qui commence par l'apôtre Jean, exilé sur l'île de Patmos, un apôtre que les autorités romaines ont souhaité isoler sur une île pour être sûr qu'il arrête d'influencer par, ses écrits et sa parole, ce monde qui leur appartenait à eux, autorités romaines. Et donc, ils l'ont isolé en se disant, ben voilà, on le met sur une île et comme cela, on va limiter l'expansion de ce message étrange. Ce message qui porte sur un homme qui est venu, qui serait fils de Dieu et qui aurait été envoyé pour supplanter toute autorité parce qu'il est l'autorité suprême, fils de Dieu. Donc ils ont isolé Jean. C'est comme cela que Jean se retrouve à Patmos. Résultat, c'est sur Patmos que Jean écrira son évangile. Le dernier évangile sur les quatre. Dans son grand âge, il va avoir la révélation, là aussi, de cette mission de Jésus-Christ au milieu des hommes. Matthieu, Marc, Luc avaient déjà écrit, ou ça circulait déjà dans les églises, mais l'évangile de Jean est le dernier. Raté pour les autorités romaines, qui se disaient « on va l'isoler et limiter son influence ». On a oublié quelles étaient les autorités romaines qui régnaient à cette époque. L'évangile de Jean est toujours au centre de la révélation de Dieu pour nos vies et pour l'Église, comme toute sa parole. Jean aux sept églises qui sont en Asie. Alors, l'interprétation qui est faite dans ce texte de l'Apocalypse, et notamment ce passage qui concerne sept églises, vous retrouverez le chiffre 7 à plusieurs reprises. Il est parlé de cette église, de cette étoile, de sept chandeliers. 7 dans les chiffres de la Bible, c'est le chiffre de la perfection. Donc le message qui nous est donné, c'est un message qui parle de la perfection des choses de Dieu. Il y a 7 jours pour la création est parfaite. Nous l'avons dévoyée, on a eu... presque 9 heures de route en aller-retour depuis la Normandie, et on a parlé avec Rémi et Michel de ce que l'homme a fait de la création, des imperfections, et ça nous met en colère de voir ce que l'être humain est capable de faire d'une création parfaite que Dieu a réalisée en 7 jours. Et puis il parle semble-t-il, à sept églises. L'interprétation qui en est faite par les exégètes, c'est de dire, ces sept églises, quelles sont-elles? Alors, bien évidemment, il y a les sept églises qui sont citées, les unes et les autres. Hein, c'est Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Qu'est-ce que tu vas faire à Thessalonique, Lucie? Elle n'est même pas dans la liste. Mais en fait, on se pose la question, c'est cette église, elles existaient du temps de Jean. Elles avaient été pour la plupart fondées par l'apôtre Paul. C'était des églises aussi visibles que celles de Kévin, boulevard Édouard Herriot à Kévin. Et comme toutes les autres églises d'aujourd'hui, c'était des églises qui existaient. Alors, la première interprétation, c'est qu'il s'agit de messages qui sont envoyés à ces sept églises de cette époque-là. Et lorsqu'il est parlé des étoiles, dans la lecture, il est dit que les étoiles, ce sont une représentation de ceux qui ont été envoyés par cette église, c'est-à-dire peut-être des responsables, des bergers, des responsables des églises locales qui sont allés voir Jean à Patmos, ces étoiles-là. Et puis les chandeliers, ce sont les communautés, les églises, c'est ce que nous dit ce texte-là. Alors, est-ce que c'est ces sept envoyés qui sont venus concrètement voir Jean à l'île de Patmos pour recueillir ses paroles, un enseignement, un encouragement? Certainement. Est-ce que ce sont ces sept églises qui existaient déjà? Certainement. Mais quand on parle de sept églises, on se dit aussi que ce sont sept églises qui représentent les caractéristiques des églises de tous les temps. À la fois dans l'histoire, mais aussi les sept églises, dans toute leur représentation, leur positionnement, leur attitude, bonne ou négative, à tous les temps jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que ces sept églises-là, on peut dire qu'elles existent encore aujourd'hui, avec leurs caractéristiques. Et si vous lisez les messages qui sont faits aux sept églises, eh bien, vous vous rendez compte qu'il y a une caractéristique, c'est que elles ont des bonnes et des mauvaises choses en elles. Au mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et aux sept chandeliers d'or, les sept étoiles sont les anges de ces sept églises, c'est-à-dire les anges en grec, ça veut dire les envoyés. Hein, angelos, c'est les envoyés. Donc, ces sept étoiles sont les envoyés des sept églises. Mais on pourrait dire que ces sept étoiles, ce sont tous ceux qui sont envoyés par Dieu dans le monde. En ce sens, tu es une étoile. Et Dieu te tient dans sa main. Et tu es un envoyé de Dieu dans le monde. Quand on voit l'état des églises dont il est question ici, il y a des fois, on peut se dire, waouh! On peut se glorifier en se disant, well, ce que dit Dieu de moi ou de nous, c'est pas mal. Et puis, il y a des églises, elles se font tirer les oreilles. Et il y a des églises dont il est dit, mais vous êtes à côté de la plaque, mes bons amis. Où est-ce que vous êtes arrivés? Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont sept Église. Donc c'est un message qui s'adresse à des églises qui ne sont pas parfaites. Parmi elles, l'une a abandonné son premier amour, et c'est celle que nous allons voir et découvrir aujourd'hui, c'est Éphèse. L'autre porte en son sein une synagogue de Satan. Waouh ! Nous avons avec Francine beaucoup travaillé sur ce qui, en ce moment, est véhiculé par les mouvements évangéliques. Et il y a des choses qui nous ont sidérés. Comment des églises peuvent-elles porter des messages où Christ est relégué à la seconde place, où le Saint-Esprit, et c'est l'expression qui est faite dans un enseignement, le Saint-Esprit n'est plus qu'un guide touristique pour découvrir le royaume de Dieu. Waouh ! Le Saint-Esprit est un guide touristique parce que nous sommes au centre. Les sept chandeliers sont sept églises. Mais j'ai contre toi certains griefs, dit Dieu. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Il enseignait à Balak à faire sortir, en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. Est-il dit à Pergame. C'est au milieu de ces églises, néanmoins, que se tient le Christ. Voilà. Malgré son état, quel que soit son état, proche de la perfection ou totalement éloigné de Dieu, Christ se tient toujours au milieu de cette église. Les églises ne sont donc pas parfaites, et je vous assure que l'église de Kevin n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite. Et la question, ce n'est pas de vouloir être parfait. Je me méfie de ceux qui recherchent la perfection comme un état à vivre. Je crois que la question, c'est est-ce que nous sommes prêts à être changés, transformés, sanctifiés ? Parce que c'est ça, la volonté de Dieu, que nos vies soient transformées. Alors, tout comme celle d'aujourd'hui, celle de Kevin et toutes les autres, ne sont pas parfaites, mais néanmoins, le Seigneur se tient au milieu d'elles. Et si je ne suis pas parfait, Christ demeure en moi avec la volonté de me conduire de gloire en gloire et de victoire en victoire à son image. Voilà la pensée de Dieu pour toi et pour moi. Sept messages destinés à sept églises. Et vous, si vous lisez les sept messages, et je vous y encourage, mais en les lisant comme des messages qui s'adressent à vous personnellement et aussi à l'église d'aujourd'hui. Et la structure de ces messages sont des structures ou est une structure qui est toujours identique pour les sept messages. Il y a d'abord écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écris, Jean, parle-leur, envoie-leur un message. Et une certitude est en moi, c'est que Dieu continue de vouloir écrire son histoire dans nos vies et dans la vie de l'église. Aujourd'hui, nous ne sommes pas sur une île à Patmos, mais nous sommes au milieu du monde. Et sans doute, l'Église est-elle très isolée par l'océan du monde. Vous savez que dans la Bible, l'océan, dans les psaumes notamment, est toujours une image du monde. Et je peux vous assurer que l'océan du monde entoure l'Église. Mais néanmoins, Dieu continue d'écrire, de parler, de communiquer à la fois à ceux qui sont envoyés, vous et moi. Quand on dit que les envoyés, ce sont ceux qui sont les responsables de l'Église, j'ai envie de dire, nous sommes tous responsables de l'Église, puisqu'il est dit qu'il a fait de nous un royaume, et derrière, des sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est-à-dire que nous sommes tous sacrificateurs, c'est-à-dire destinés à porter le message de salut au monde. C'est la mission première de l'Église. Et là, je m'élève contre les messages actuels qui disent que la mission de l'Église, c'est de grandir et de devenir nombreuse. Non, non. Le nombre, on n'a rien à voir à l'affaire. La mission de l'Église, c'est d'être des sacrificateurs pour Dieu et pour glorifier le Fils qui s'est donné et pour annoncer au monde, tu peux connaître la délivrance. Amen. Alléluia. On parlait en voiture. Les longs voyages sont toujours l'occasion de refaire le monde, de refaire l'Église, de s'interroger. Et on disait qu'effectivement, David, on parlait de cela hier, David, le reproche qui lui a été fait à un moment donné, c'est de vouloir démontrer sa force en calculant combien il avait de divisions, de soldats, de chars, etc. Et Dieu l'a sanctionné pour ça. Je ne suis pas loin de penser qu'aujourd'hui, les églises évangéliques sont dans le même registre. Ah, si on avait 100 membres, 200, 300, 400, 500, 1000. Est-ce que c'est ça le but ? Non. S'il y en a 1000, pourquoi pas ? L'objectif, c'est de gagner les âmes une à une, d'annoncer l'évangile. On a Thierry et Geneviève qui sont là ce matin. C'est des amis qui... Ils ont fait... Vous êtes arrivés quand, en fait ? Avant-hier, d'accord, on s'est croisés alors. Nous, on partait, vous vous arriviez. Ce sont des Normands. Et j'aime beaucoup leur témoignage. Ils sont en Normandie et depuis des années et des années, ils servent le Seigneur en annonçant l'Évangile aux motards et à ceux qui viennent dans les festivals de rock metal et du rock très, très fort, très puissant. Ils ont des stands et vous savez quoi ? Ils donnent la parole de Dieu. Alors c'est des Bibles avec des témoignages de motards dans une Bible, je crois, et puis des témoignages de rockeurs chrétiens dans l'autre. Âme après âme, cœur après cœur, ils font ce travail-là. Alléluia. Ils sont sacrificateurs du Dieu vivant. Ils sont sacrificateurs du Dieu vivant. Aujourd'hui, le Seigneur s'adresse à nous en disant, voilà, celui qui nous aime, qui nous a délivré de tous nos péchés, a fait de nous des sacrificateurs. Alors, dans la structure de ces lettres, il y a toujours, ça se termine toujours par « au vainqueur, je ». Au vainqueur. Ça se termine toujours par une phrase « toni conti », c'est-à-dire du verbe « nikeo ». Au vainqueur. Oh, vous avez des têtes de vainqueurs, c'est génial. Ah, je regarde, j'examine l'assemblée. Oui, Agnès, vous avez des têtes de vainqueurs. Ah bah ah ouais, et quand même. Tous ou bien est-ce qu'il y en a qui ont l'impression d'être des vaincus ou des en difficulté? J'écoutais un directeur d'une équipe du Tour de France. Le Tour de France, c'est deux. Il y a deux vainqueurs qui se battent pour la victoire. Et puis les autres qui courent derrière. Je résume un peu. Et il y a un journaliste qui posait la question à un directeur sportif que j'aime bien, qui s'appelle Marc Madiot, qui a gagné de nombreuses courses et qui a une équipe. Le journaliste, il disait, mais vous n'êtes pas un peu découragé, finalement, de prendre le départ de la 15e, 16e, 17e étape, alors que la victoire, elle se joue avec deux hommes quoi, qui sont devant. Et il dit, mais attendez, si on ne se battait pas pour gagner, on ne prendrait pas le départ. Et j'ai trouvé cette réflexion intéressante. Si on ne se levait pas le matin pour dire, je me lève pour être vainqueur, bah, je raccroche mon vélo, je retourne à la maison. Et il y a parfois des chrétiens qui sont sauvés, mais qui ne sont plus vainqueurs. Ils attendent que la ligne d'arrivée s'approche progressivement pour que le Seigneur, au mieux, les enlève, au pire, après leur décès, les attire dans son royaume. Et puis, il y a ceux qui, et c'est là le message de l'apôtre Jean, qui se disent « au vainqueur ». À celui qui vaincra. La vie chrétienne n'est pas un jardin de roses bordé de pétales, etc., sous nos pas, avec quelqu'un, des anges qui lancent des pétales, et puis on n'a plus qu'à avancer tranquillement jusqu'à l'arrivée. Non, 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 non. La vie chrétienne, c'est une bataille. Certains le vivent en ce moment dans leur santé, mais aussi dans leur travail, dans leurs relations, dans leur famille, dans des cadres bien différents. Être chrétien, c'est être engagé comme sacrificateur du Dieu vivant dans un combat entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. Alors, est-ce que je suis un vainqueur dans l'âme, dans l'esprit ? Le mot « nikao » en grec était utilisé aussi bien pour la victoire dans le corps à corps que dans celle qui termine un conflit armé. Moi, j'aime bien cette idée-là. C'est ces deux aspects-là. C'est du combat individuel et du combat collectif dans vos vies personnelles. Si vous êtes engagé en tant que sacrificateur, alors vous aurez à vous positionner face aux agressions de l'adversaire. À titre personnel, chacun pour votre part et dans le champ où vous êtes appelé à être des sacrificateurs. Au travail, dans la famille, parfois même dans l'Église, c'est d'occuper le terrain et dire c'est là le champ dans lequel je suis appelé à être vainqueur et à combattre. Et puis il y a des combats qui sont collectifs. C'est l'Église qui combat et qui témoigne de Christ au milieu du monde. Alors, est-ce que je suis un vainqueur? Très étrangement, ce mot « nikéo » ne figure qu'une seule fois, me semble-t-il, dans le Nouveau Testament. Toutes les autres fois, c'est dans les écrits de l'apôtre Jean. Toujours. Il avait, à la fin de sa vie, compris qu'il était un vainqueur, même emprisonné sur l'île de Patmos. Et j'ai envie de dire, tu as peut-être l'impression d'être emprisonné dans ta vie, de ne pas avoir toute la liberté d'action, de vivre. Eh bien, l'important, ce n'est pas d'être sur Patmos environné par le monde et son pouvoir. L'important, c'est est-ce que dans ton cœur, dans ton esprit, tu es vainqueur? L'Empire romain était vaincu et il l'ignorait. L'apôtre Jean était vainqueur et il le savait. Lorsque l'apôtre Jean parle de cela en terminant chaque lettre à chaque église en disant « Ô vainqueur !» Moi, j'aime beaucoup, je le dis souvent, mais il y a une grande marque de sport dans la deuxième partie du XXe siècle qui a été créée. Et puis, ils cherchaient un nom pour leur matériel, notamment leurs chaussures. Et ils ont fait un brainstorming avec le nouveau patron de la boîte et puis toute l'équipe marketing, publicité, etc. Comment on pourrait s'appeler? Il y a une marque qui a la plupart du marché, c'est Adidas. Bon, comment on pourrait avoir un nom et puis un logo qui se reconnaisse? Ils ont fait un brainstorming et puis ils se sont séparés sans trop savoir. Ça avait fusé, mais pas de nom qui était ressorti. Puis il y a un des membres qui était chrétien et qui est rentré chez lui. A-t-il lu l'Apocalypse? Je pense que ça doit être ça. Tout à coup, en tout cas, en rentrant chez lui dans la soirée, il a eu comme cette résonance dans sa tête du message aux sept églises. Au vainqueur, au vainqueur, au vainqueur. Et il s'est dit, mais ça, c'est un nom de marque pour du matériel sportif. Au vainqueur. Si on a ce nom-là, ça va nous positionner quand même. Ils vont mieux porter des chaussures au vainqueur qu'au perdant, non? Enfin, je ne sais pas, pour vous. Et donc, il est retourné le lendemain, et puis dans le brainstorming suivant, il a dit, ben voilà, moi j'ai une proposition. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a un message pour les sept églises, c'est-à-dire pour tout le monde entier, et ça se termine par au vainqueur, en grec, nikéo. Et si on appelait notre matériel Nike? Une fois, j'ai fait monter, quand j'étais à Ys, il y a 2 mois, j'ai fait monter un jeune qui avait l'avantage, il avait été à Mesnières-en-Bray à la convention de jeunesse, et il avait vécu quelque chose d'extraordinaire. Donc, avec les autres jeunes du groupe, il est venu rendre témoignage de cela. Et puis, il portait un t-shirt, vous savez, j'aime beaucoup regarder les t-shirts où il y a des choses écrites, parce que les gens véhiculent des idées et des messages sans trop le savoir. Et puis, lui, il était là, et à un moment donné, j'ai remarqué qu'il avait des Nike aux pieds. Alors, je dis, oh, c'est génial. Alors, j'ai fait descendre les autres, je les ai laissés, je dis, voyez, lui, il est convaincu du message de l'Apocalypse de l'apôtre Jean, au vainqueur. Il a des Nike! Vous avez quoi comme chaussures aux pieds, vous? Hein? Il a des Nike, Valentin. Il est fier. Alors, il est redescendu, puis j'ai commencé à prêcher. Et puis, tout à coup, j'ai réalisé qu'il portait un t-shirt. Et je me disais, il a le message parfait du jeune qui marche avec le Seigneur. Il est déjà vainqueur avec ses chaussures. Et sur son t-shirt, il y avait marqué « Work in progress », c'est-à-dire « Travaux en cours ». Je trouve que tous les chrétiens devraient afficher cela. Je suis vainqueur, mais le travail est en cours. Est-ce que c'est votre cas? Ou bien est-ce que c'est terminé? Ou bien est-ce que vous avez fini les travaux? Oh oui, le Seigneur a tout fait. Non, non, non. Laissez le Saint-Esprit vous rendre conscient de ces deux réalités. Vous êtes vainqueur et les travaux sont en cours. La sanctification est en cours. Alors, mais pour être victorieux, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je vous conseille davantage, si vous jouez au football, quelle que soit mon appréciation des équipes et de leurs valeurs, Il vaut mieux jouer pour être vainqueur de la Ligue 1 à venir avec le PSG qu'avec Sochaux. Je dis ça, j'ai rien contre Sochaux. Donc, ça veut dire quoi ? Il faut choisir son camp. Il faut choisir le bon camp. Ce n'est point parce que vous vous surpassez en nombre de tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Wow. Ça, c'est un message qui encourage. Dieu qui s'adresse dans le Deutéronome 7.7, c'est pas parce que vous êtes les meilleurs que Dieu vous a choisi. Et vous savez, je vous regarde, je disais, vous avez des bonnes têtes de vainqueurs. Oui, oui, oui. Mais c'est pas parce que vous êtes les meilleurs. Je vous regarde aussi. Non, 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 non. Enfin, je vais en vexer certains. Non, vous avez des têtes de vainqueurs, mais c'est pas parce que vous êtes les meilleurs. Vous savez pourquoi Dieu vous a choisi ? Deutéronome 7.7, 7.8, mais parce que l'Éternel vous aime. Alléluia ! Alléluia ! C'est parce que l'Éternel m'aime que je suis vainqueur et que je peux avancer avec lui. L'Éternel vous a fait sortir à main forte, vous a libéré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, du péché qui était sur vos vies, parce qu'il vous aime. Et ce que dit l'apôtre Jean, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire. Amen. Alléluia. Excusez-moi, je vous ai réveillé. Parce qu'il m'aime. Pour être victorieux, il faut être conscient de l'amour de celui qui m'a choisi dans son camp. Et j'ai dit oui. Je raconte souvent que j'étais maigrichon, très asiatique quand j'étais à l'école. Donc j'étais toujours un de ceux qui étaient restés de côté. Et quand on faisait des matchs de foot dans la cour de récré, j'étais toujours un des derniers qui était choisi pour jouer dans l'une ou l'autre équipe. Donc j'étais rarement dans l'équipe gagnante. En général, je n'étais pas dans l'équipe qui avait choisi les meilleurs footballeurs et les plus forts. Mais aujourd'hui, et depuis l'âge de 15 ans et demi, 16 ans, je suis rentré dans l'équipe de Dieu parce qu'il m'aime. Et il m'a pas dit, attends, je vais d'abord choisir Michel Cannon, je vais d'abord choisir Jean-Louis Guillon, etc. Toi, on verra si tu rentres dans l'équipe. Non, non, il a choisi Francine et chacun d'entre vous. Il vous a choisi parce qu'il vous aime. Vous êtes dans l'équipe gagnante. Pour être victorieux, il faut commencer le combat en ayant déjà un esprit de vainqueur, c'est ce que j'expliquais avec ce responsable d'équipe du Tour de France qui dit « Mais nous, quand on part, on croit qu'on va gagner !» Eh bien, là, ici, dans l'Écriture, l'apôtre Paul dira lui aux Philippiens « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ !» Ah, frère, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière. Oui, oui. Là, je vois des réactions à ma gauche. Oubliant ce qui est en arrière. Ah oui, il faut oublier ce qui est en arrière. Ce qui nous a peut-être implanté en nous un esprit de défaite, de découragement. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. La victoire nous appartient. Et pour être victorieux, il faut être habité par la victoire. Non pas que moi, je peux acquérir, mais que Christ a acquis pour moi. Avoir cet esprit de victoire. Pour être victorieux, il faut avoir un chef qui conduise le combat qui mène à la victoire. Il y a des choses... On a joué avec ma fille, son mari, et puis deux jeunes, notre petite fille et puis sa meilleure amie, à des nouveaux jeux. Vous savez, c'est des jeux où il faut, avec une tablette électronique, des cartes, etc., arriver à remporter un prix, à découvrir ceci, cela. Et là, c'était la semaine dernière, on devait découvrir une statue d'or dans un temple maya, etc. Et on a fait les équipes. Et ma fille et mon... Enfin, on n'a pas fait... On était une seule équipe. On travaillait ensemble. Mais dans l'équipe, ce n'était pas moi qui étais le chef victorieux. Mais ma fille et mon gendre, ils maîtrisaient les trucs. Ils trouvaient des indices dans tous les coins. Et moi, je dis, ah bon, il y a ça. Il faut avoir le bon chef. Et vous savez quoi? Ah, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que dans tout ce que nous vivons, nous pouvons être avec celui qui a remporté la victoire dans toutes nos épreuves, nos difficultés. Ou certaines difficultés. Ou quelques difficultés. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Celui que nous suivons est victorieux en toutes choses. Et dans tous les domaines. Alors, pour être victorieux, ben c'est vrai aussi qu'il faut combattre ensemble. Avoir un esprit d'équipe, une solidarité. Moi, j'avoue que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Parce qu'en ce moment, dans le monde évangélique, le message, c'est il faut un leader, un chef, un seul, dans l'Église, et pas le Seigneur. Un homme, plutôt qu'une femme. Je rajoute ça parce qu'il y a ma femme qui vient de hocher la tête. Ah ouais, tiens, toujours un homme. Ah oui, non, ah oui, parce que les leaders, c'est forcément des hommes. Hein, allez expliquer ça à Angela Merkel, qu'il ne peut pas y avoir de leader femme. Non. Et le message, c'est de dire, voilà, il y a un homme et les autres. On en reparlait, on a refait l'Église aussi. On parlait de la doctrine, de ce qui fonde l'Église. Et en fait, les autres qui sont autour du leader doivent se mettre à son service, doivent comprendre quelle est sa vision, son message, afin que l'Église progresse, avance. Et moi, je ne sais pas, doctrinalement parlant, l'Église ne peut avoir qu'un seul leader. Et ça ne peut pas être moi. Ça ne peut pas être Michel. Francine, peut-être. Il n'y a qu'un seul leader, Jésus-Christ. Et c'est ensemble que nous suivons ce leadership qui appartient à un seul, le Christ au milieu de nous. Combattre ensemble pour être victorieux en suivant le seul qui détient la lumière et la vérité et qui nous conduit dans les chemins qui sont justes. Écrit à l'église d'Éphèse. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est très étrange, ce message destiné à l'église d'Éphèse. Il lui dit, à la fin, pour l'encourager, « Si vous entendez, si vous tenez bon dans ce que je vous montre de vous-même, de vos forces et de vos faiblesses, parce que c'est ça qui est dit à l'église d'Éphèse, c'est qu'elle n'est pas simplement avec des qualités, mais elle a aussi des fragilités. Eh bien, si tu prends en compte cela, tu seras vainqueur, et au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Ouais, c'est quoi cet arbre de vie? Et en fait, le message de l'Apocalypse clôt l'écriture qui commence par le livre de la Genèse. Et je vous le rappelle, parce que c'est cela aussi le fondement doctrinal de notre foi. Lorsque l'homme se sépare de Dieu en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire en choisissant de savoir ce qui est bien et ce qui est mal par son intelligence et sans être en relation avec Dieu. Rien n'a changé aujourd'hui. L'homme cherche toujours à trouver ce qui est bien uniquement par son intelligence et sans Dieu. C'est pour ça que, toujours hier, je vous dis, on se disait, enfin moi je disais à Rémi, je ne crois pas que n'importe quel, quels que soient les partis politiques, quels que soient les savants, les scientifiques, etc., que la solution viendra par l'intelligence de l'homme pour changer ce qui est en train de se passer, y compris au niveau écologique, si dans cette équation-là, on n'intègre pas Dieu, le Créateur. Et dans le livre de la Genèse, L'homme ayant décidé de vivre par son intelligence, sa raison, est chassé du jardin d'Éden. Et souvent, dans notre croyance ou notre compréhension de cela, on le voit comme une sanction, une punition de l'humanité qui est rejetée à cause de son péché. Pas du tout ! La parole ne nous dit pas cela. Lorsque Dieu parle aux anges qui sont autour de lui, il dit, eh bien, chassons-les, non pas parce qu'ils sont méchants, ils sont pécheurs, etc., de peur qu'ils ne mangent de l'arbre de la vie et qu'ils vivent éternellement. Sous-entendu qu'ils vivent éternellement, loin de moi. L'homme chassé du jardin d'Éden, c'est un acte d'amour. Et un acte d'amour qui commence par une mort qui est prophétique, qui est messianique. Dieu tue un ou des animaux pour couvrir la nudité de l'homme pécheur. C'est une annonce de l'agneau de Dieu qui sera accroché au bois et qui couvrira la nudité et le péché de tous ceux qui se tourneront vers lui. Toute l'Écriture est cohérente et complète. Et Dieu dit, chassons-les de peur qu'ils ne mangent de l'arbre de la vie et qu'ils vivent éternellement. Et ici, il dit, au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de la vie. La boucle est bouclée. L'arbre de la vie, je dirais, c'est un arbre bien particulier. C'est l'arbre dont il est parlé qu'il fut planté au sommet du mont Golgotha, et que ce bois, puisque c'est le mot qui est utilisé, le bois de la vie, eh bien que ce bois, pour tous ceux qui en mangeront le fruit, qui participeront à cette mort du Christ et qui la recevront comme le fruit de la sainteté, de la justice de Dieu, eh bien, ce fruit-là nous donne la vie pour l'éternité. Alors que nous étions chassés du jardin d'Éden parce que nous étions dans le péché en tant qu'humanité, Dieu dit dans l'Apocalypse, « Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » C'est-à-dire que nous avons à nouveau, en Jésus-Christ, droit et accès à la vie éternelle. Elle n'est pas belle, la parole de Dieu. Elle n'est pas parfaite. Nous avons été chassés pour faire un choix et nous tourner vers Dieu. Nous nous tournons vers Dieu et nous retrouvons l'arbre de vie planté à Golgotha. Lorsqu'il est parlé de l'église d'Éphèse, il est dit qu'elle a au moins 10 points d'éloge. Je ne vais pas tous les faire, je vais juste les citer. Et qu'il y a un point de condamnation. C'est le point de condamnation, je trouve qu'il est beau à souligner, c'est que tu as oublié l'amour, ton premier amour. J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. C'est ce qui est reproché à Éphèse. Et en même temps, on se dit, oui, c'est moins grave que les autres. Hein. On voit d'autres églises dans les lettres de cette église, ouais, nous, c'est pas trop, ça va, ça. Ouais. Est-ce que tu as oublié ton premier amour ? Peut-être celui qui est assis à ta droite ou à ta gauche, celle qui est assise à ta droite ou à ta gauche. Si on dit ça à un homme, à un mari ou une femme, tu as oublié ton premier amour. C'est pas léger. Hein ? C'est pas léger du tout. Et même si vous êtes célibataire, ce qui est dit ici, c'est tu m'as aimé, tu as reçu mon salut, tu as découvert l'amour du Père, mais tu l'as oublié. C'est devenu quelque chose de secondaire dans ta vie. C'est un point de condamnation. Est-ce que notre premier amour est toujours notre premier amour ? À la première place. J'aime bien prendre des exemples personnels, mais... Avec ma femme, souvent, elle m'a demandé, enfin souvent, quelquefois, elle m'a demandé, mais pourquoi t'es pas jaloux ? C'est vrai, pourquoi t'es pas jaloux ? Tu devrais être jaloux, ça devrait être normal si tu m'aimes. Tu vois, parfois, elle m'a posé la question. J'ai,
Mais moi, je ne suis pas jaloux parce que je sais que je suis ton premier amour. Je le sais, donc je n'ai pas besoin d'être jaloux. Ah ouais, j'aime bien ça, cette pensée-là, non ? Est-ce que vous avez votre premier amour à vos côtés ? Est-ce que vous lui dites ça ? Ou bien est-ce que vous doutez, vous avez peur ? Alors parfois, vous vous méfiez, non ? Mais moi, je sais que je suis son premier amour, donc voilà, je suis tranquille. Je profite. Est-ce que dans la relation avec Christ, vous êtes dans la même démarche ? Ou est-ce que Christ peut aussi dire, mais t'as pas le sentiment que tu as oublié ce premier amour que tu as eu pour moi, qui s'est étiolé au fil des années, du quotidien ? C'est souvent ce que disent ceux qui se séparent. Ah oui, le quotidien a eu raison de notre amour. Ah bon ? Ah ben dis donc, il n'a pas fallu grand-chose. Est-ce que le quotidien avec Christ a étiolé l'amour que tu avais pour lui ? C'est un point de condamnation. Mais il y a 10 points d'éloge. Le premier, c'est « je connais tes œuvres ». Et le mot qui est utilisé, c'est un mot particulier parce que derrière, on dit « tes œuvres, ton travail ». Mais attends, les œuvres et le travail, ce n'est pas la même chose ? C'est quoi la différence ? Et en fait, la différence, elle tient dans le mot grec, c'est « tes œuvres », c'est plus lié à la fonction. Je connais le travail qui est lié à ta fonction, à ta place. C'est le mot ergon, ce qui a donné ergonomie. C'est-à-dire, quelle est ta fonction de travail qui t'a été confiée par rapport à ton appel, par rapport à ce que Dieu a fait de toi. Je dis toujours, notre appel, il est en lien depuis toute éternité avec la pensée de Dieu sur chacune de nos vies, en fonction de nos personnalités naturelles, des dons naturels qu'il a déposés en nous. Et nous n'avons pas tous les mêmes dons. Et puis aussi avec les dons spirituels qu'il dépose en nous. Et nous n'avons pas tous les mêmes dons. Certains vont avoir un don de présidence, un don de prophétie, un don d'accompagnement, d'écoute, etc. Nous n'avons pas le même nom. Et à ce moment-là, quand Dieu parle à l'église d'Éphèse, il dit « Je connais tes œuvres », c'est-à-dire la fonction à laquelle et le travail auquel je t'ai appelé par rapport à ce que tu es. Ben, je vous invite. Donc, à la fin du culte, Thierry et Geneviève enregistreront tous ceux qui veulent travailler auprès des motards et des rockers métalleux. Je vous donne déjà le nom de Marie-Vonne. Vous la prenez, et puis les autres suivront, vous verrez. On n'a pas tous les mêmes dons. Moi, je n'ai pas de complexe par rapport à eux, parce que je sais que Dieu dit, je connais ton travail, ton œuvre, tes œuvres. Tes œuvres, c'est ce que je t'ai appelé à être et le domaine dans lequel je t'ai appelé à travailler. Et ensuite, il dit, je connais tes œuvres, ce pour quoi tu es appelé, la fonction que tu as dans l'Église, et le travail que tu fais par rapport à ta fonction. Il y en a, ils ont des fonctions. En 4 heures de voyage hier, on a parlé. On parlait de quelqu'un qui avait une fonction très haut placée dans la mairie de Lorient, etc. Ah, il avait la fonction. Et puis, eux qui connaissaient l'individu, etc., me disaient des choses. Je disais, le gars, pendant toute sa vie, il n'a rien fait de sa fonction. Si, il faisait des blagues, ou il donnait des mauvais points, ou faisait des pièges pour ses salariés, pour les faire chuter, etc. Ah ouais, je connais tes œuvres, ta fonction. Par contre, je ne connais pas ton travail. Tu fais quoi, au juste ? Et moi, je disais, mais il est allé jusqu'à la retraite ? Oui. Oui, oui. Est-ce que parfois, dans l'Église, on peut dire, tiens, elle a un appel, elle a des dons, lui aussi. Dieu lui a confié. Mais est-ce qu'il y a le travail qui suit derrière ? C'est cela ce que dit Dieu. Je connais tes œuvres, ton travail. Et travail en grec, ce n'est pas le même mot que œuvre, c'est kopos. Et c'est le travail intense qui est en lien avec des efforts et de la peine. Ouais, parce que le travail, depuis le jardin d'Éden, c'est tu travailleras à la sueur de ton front. Mais travailler pour Dieu, c'est aussi fournir des efforts. C'est pas facile. On parlait toujours dans ce voyage de 10 heures du fait que
la doctrine et l'étude de l'Écriture n'est plus au centre des églises évangéliques aujourd'hui. Vous savez pourquoi ? C'est pas glorieux. Il n'y a aucune gloire à s'enfermer dans son bureau, dans sa chambre, à lire l'Écriture pendant des jours, des semaines, des mois et des années pour chercher quel est le fondement de nos vies, le fondement de l'Église. Il n'y a rien... Ah, mais alors ? Je m'en rappelle, dans un conseil, on parlait à un jeune stagiaire, on disait « Et toi, c'est quoi ton appel ?»« Moi, c'est clair, je suis appelé à servir Dieu dans des méga-church, minimum 1000 personnes, et pour la louange et l'adoration à la guitare électrique. Ah, ça, c'est mon appel. Ah, tu veux pas être celui qui s'occupe de la sono ? Non, 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 la guitare, devant, au micro, devant tout le monde. » Ah ouais. Ça demande de travailler, de sonder l'Écriture. Quel est votre appel ? Quelle est votre œuvre, la fonction ? Et quel est le travail qui sera un travail intense en lien avec des efforts à fournir ? Moi, je disais, tu vois, je suis né à Marseille, alors les efforts à fournir, c'est pas trop mon lot. Hein. Le travail, la persévérance ! Est-ce que je connais ta persévérance, dit Dieu ? C'est-à-dire ta capacité à tenir dans le temps. Je connais le fait que tu ne supportes pas les méchants. Ah ouais, c'est-à-dire que tu n'acceptes pas que dans ce monde, dans l'Église, ceux qui sont en opposition avec Dieu, y compris dans l'Église. Moi, en ce moment, je prends des positions, je dis, bah oui, chrétien, pas chrétien, pasteur, apôtre, prophète. Si tu participes à accepter le fait que les méchants soient présents ou que les valeurs de l'adversaire. Bon, moi, je ne suis pas avec, donc tu ne supportes pas. Est-ce qu'il y a en toi cette capacité à ne pas supporter ce qui est injuste ? Ou bien est-ce que tu dis, oh, on fait avec, hein, on ne va pas faire de vagues. Il y a un frère, un pasteur en larmes au téléphone qui m'a appelé il y a quelques semaines en me disant, j'étais dans un conseil des pasteurs et il était en larmes au téléphone parce que le message, c'était... Oh, tu sais, maintenant, il ne faut plus séparer le blé de l'ivraie. On annonce l'évangile, et puis ça se réglera, et puis le blé finira bien par changer l'ivraie en blé. Non, 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 l'ivraie, on l'enlève. On le dit que ce n'est pas juste. Est-ce que tu ne supportes pas les méchants ? Éprouve ceux qui se disent apôtres, ou le pasteur, ou les anciens, ceux qui disent avoir des services et des ministères, éprouve-les, vérifie qu'ils portent des fruits qui soient des fruits de justice. Trouve ceux qui sont menteurs. C'est ce que dit Dieu à Éphèse. Et puis, sois patient. Souffre à cause de mon nom. Ne te lasse pas. Et aie les œuvres des Nicolaïtes. Alors, je ne vais pas développer ce que c'était, mais les Nicolaïtes, ils étaient dans l'idée qu'il fallait profiter de la liberté de l'Évangile pour s'accommoder de tout ce qui était... Alors, on va manger avec les païens, et puis on va même participer à leurs fêtes, etc., sous prétexte que la grâce était là. Ils pratiquaient le libre abandon aux passions charnelles. Ils étaient en partie Église, en partie le monde. Et Dieu dit, mais tu hais les Nicolaïtes comme moi je les hais. Je hais les œuvres des Nicolaïtes. Ils ne haïssaient pas les Nicolaïtes, ils haïssaient les œuvres des Nicolaïtes. Voilà le message qui est adressé à Éphèse. Je voudrais qu'on puisse vraiment s'interroger, est-ce que ce qui est dit à Éphèse me concerne ? En quoi ce message à l'église d'Éphèse me concerne moi ? Mon église ? Pour que je puisse rentrer et que j'entende la voix de Dieu qui me dise « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, etc. » Seigneur, merci de continuer à écrire sur la table de nos cœurs une lettre à l'église de Kevin, à chacun d'entre nous, pour que nous puissions entrer dans tes promesses, dans tes pensées, pour que nous puissions connaître la plénitude de vie qui se trouve en toi, à la fois dans notre vie de service, mais dans notre vie de relation avec toi. Seigneur, écris sur la table de nos cœurs. Donne-nous de trouver dans ta parole, là aussi, des orientations, des messages qui nous concernent personnellement. Que nous puissions véritablement vivre de ton salut pleinement et totalement. Fais souffler ton esprit, Seigneur. Alors je ne prendrai pas la facilité de dire « Seigneur, souffle sur ton Église ». Je te dirai « Seigneur, souffle sur ma vie ». Amen.